Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, pour évoquer au moment où triomphe au cinéma La fille du Puisatier, réalisée et interprétée par Daniel Auteuil, pour évoquer donc les relations de Marcel Pagnol avec le cinéma, Marcel Pagnol dont je rappelle qu'il fut élu à l'Académie française le 4 avril 1946, à l'âge de 47 ans, notre invité est aujourd'hui l'un des grands directeurs photos du cinéma français des 35 dernières années, Jean-François Robin, qui a dirigé la photographie dans le film de Daniel Auteuil, suscitant dans le Nouvel Observateur ce commentaire. Et puis il y a la lumière de Jean-François Robin, brûlante, magnifique, partie prenante du récit, elle rend toute la saveur et l'intemporalité de la Provence de Pagnol. J'ajoute que Jean-François Robin, qui a obtenu en 2008 le prix du roman de l'Académie française pour La disgrâce de Jean-Sébastien Bach, publie Journal d'un tournage, La fille du Puisatier aux éditions de Fallois, qui en même temps réédite le texte même du film écrit et réalisé en plein début de la Deuxième Guerre mondiale par Marcel Pagnol, dont Bernard de Fallois fut justement le grand éditeur. Jean-François Robin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans La fille du Puisatier, Pagnol reprend un thème qu'il a déjà utilisé dans la trilogie, Marius, Fanny, César, celui de la fille-mère. Mais cette fois, ce n'est pas à Marseille qu'il le développe, mais en pleine campagne. Alors, avez-vous l'impression que ça donne un souffle supplémentaire aux propos ?
Oui, je crois, parce que de toute façon, Pagnol, quand on regarde les films de Pagnol et quand on lit les pièces, il raconte toujours la même histoire, c'est vrai. Par définition, c'est toujours l'histoire d'une fille perdue, enfin bon. Et donc là, le fait de changer de lieu, ça lui a donné une espèce de respiration supplémentaire, si vous voulez, de respiration naturelle, de la nature. Mais bon, il était certes plus à Marseille, mais il était quand même en Provence. Il restait dans sa Provence et là, il était quand même en terrain très très connu. Donc, en définitive, c'est pas un changement fondamental, si vous voulez. C'est simplement Marseille, une respiration supplémentaire. Au lieu d'être à Marseille, on était près du Cabanon, c'est tout.
Oui, mais il y a le Mistral en plus, quand même, qui joue un rôle important dans vos...
Le Mistral, il est... Comment dirais-je ? Il n'est pas dans Pagnol.
Il était réel
et il est dans le film. Et ça, ça a été un élément dramaturgique absolument incroyable, ce qui nous a énormément gênés. Mais peu à peu, il s'est intégré au film et il a surjoué. C'est lui qui surjouait le plus dans le film, c'était le Mistral.
Comment éclaire-t-on le scénario d'un film comme celui-là ? Parce que j'ai lu que Daniel Auteuil, vous avez fait des demandes très très précises. Je voulais une lumière contrastée, une lumière de printemps, j'avais envie de voir la peau des actrices, les voir rosir, qu'on sente des perles de sueur sur leur visage. Oui, bon, comment fait-on ?
Si vous voulez, je lui avais dit, moi je vois ça effectivement comme un film contrasté, je vois ça comme un film provençal en fait, c'est-à-dire comme un film éclairé par la lumière de Provence. Et puis, si vous voulez, le but que j'ai eu, et je lui ai dit ça, je lui ai dit pour moi, La fille du Puisatier, c'est un film en noir et blanc qui a déjà été fait. Donc, il faut qu'on fasse, comme ça se passe en 1940, il faut qu'on fasse un film en noir et blanc, mais en couleur. C'était mon propos, si vous voulez. C'était de garder cette espèce de contraste du noir et blanc, mais de le faire en couleur. Et je me suis tenu à cette ligne pendant tout le tournage et j'espère pendant tout le film.
Alors, il y a quelque chose que vous avez rendu de façon exceptionnelle. C'est la pauvreté dans sa dignité. Alors, comment fait-on les lumières qu'il y a lorsque vous rendez donc, l'atmosphère des pièces à l'intérieur de la maison, la façade de la maison ? On y est tout de suite, en fait, mais on y est par l'intérieur.
Si vous voulez, on y est.
C'est presque perçu côté âme. Comment fait-on, là ?
C'est perçu côté âme parce que c'est quand même le fruit d'une analyse assez précise, c'est-à-dire que vous avez une espèce, quand vous faites de la lumière, comme ça, d'un film d'époque, vous êtes obligé de tenir compte de tous les paramètres qu'il y avait à cette époque. Et qu'est-ce qu'il y avait comme paramètre à cette époque ? C'est que les gens commençaient à avoir l'électricité, mais dans La fille du Puisatier, c'était quand même des pauvres, ils avaient très peu de lampes. Donc, si vous voulez, c'est le point de départ. On fait une lumière de pauvre. Et puis, à partir de là, Rembrandt aussi, souvent, il a fait des lumières de pauvres, entre autres. Donc, vous donnez de l'âme à cette lumière de pauvre.
Alors, ces images paraissent tout à fait naturelles, et pourtant, si je suis bien informé, il y a derrière un énorme travail réalisé sur ordinateur.
Alors, le travail réalisé sur ordinateur se fait à la suite, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'étalonnage, mais ce n'est pas, si vous voulez, un énorme travail, parce que c'est un travail, disons, de choix esthétique final. Mais le choix esthétique de base, vous l'avez pris en option dès le départ du film. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un bouleversement, c'est simplement un affinage de la lumière.
Mais qu'est-ce qu'apporte l'ordinateur?
L'ordinateur, vous savez, l'ordinateur, il apporte simplement le fait d'être une machine qui permet de faciliter les choses.
C'est tout.
D'aller plus vite et de faire des calculs qu'on n'a pas besoin de faire soi-même. Mais sinon, l'ordinateur en soi, c'est comme une caméra. Je veux dire, quand on parle de la révolution du numérique et de l'argentique, bon, on a changé la caméra. Qu'est-ce que ça change? C'est la révolution, elle s'est pas faite devant. Le jour où la révolution, elle se fera devant la caméra, là, ça changera. Mais sinon, la caméra, ça change pas grand-chose.
Alors, dans votre journal de tournage, vous avez écrit « J'ai senti rapidement que nous allions faire quelque chose de bien ». À quoi ressent-on une chose comme ça?
C'est tout simple, vous savez, parce que vous faites un film avec un scénario qui se tient très bien, avec un texte qui est quand même du Pagnol, que moi je considère comme du Racine, si vous voulez, avec une Provence magnifique et avec des acteurs magnifiques. Donc vous avez quand même tous les ingrédients pour que ce film-là soit réussi. Moi, je suis parti de là, c'était mon point de départ.
Et après, il y a l'alchimie, et c'est l'alchimie qui est quand même là.
Ah bah oui, mais l'alchimie, c'est le fruit d'un long travail. C'est pas l'instinct, c'est le travail.
Alors, avant d'en venir au rapport de Pagnol avec le cinéma, il serait peut-être bon de constater qu'il appartenait à une famille d'origine espagnole, mais l'une de ces familles de Romano, au fond. Des Romano qui ont quitté l'Espagne au XVe siècle, qui se sont spécialisés dans le milieu de la France, dans le travail d'armurier et d'artificier. Et c'est son grand-père qui est devenu simplement appareilleur de pierre. C'est quand même étonnant dans le débat aujourd'hui sur l'identité de voir que Pagnol donne vraiment l'impression d'être l'incarnation de la France, quoi.
Ben, vous savez, si on ne sait pas ce que vous venez de me dire, on ne va certainement pas le deviner en voyant le film de Pagnol et en lisant Pagnol et en entendant son langage. Au contraire, c'est effectivement profondément français parce que ça vient de la terre aussi. En fait, il est venu à Paris, mais en définitive, il est issu de la Provence et les générations d'avant qui étaient,
ailleurs.
Il a eu le temps de
Alors, il appartenait à une famille très haute en couleur, en particulier le grand-père qui voulait que tous ses enfants soient instituteurs. Il en avait 6, je crois.
Oui.
Ça en faisait une tripotée. Et lui, très tôt, a eu la passion non pas du cinéma, mais du théâtre, au point que, étant professeur d'anglais au lycée Condorcet à Paris, il a refusé de passer l'agrégation. Vous vous souvenez de la raison? Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas être obligé d'aller enseigner en province où il n'y aurait pas de théâtre. Alors, ses premiers grands succès, c'est au théâtre.
Ah oui, tout à fait.
C'est Topaz, c'est Marius.
Et c'est la trilogie, c'est Topaz et c'est toutes ces pièces-là. Mais quand on regarde la liste des pièces de Pagnol, il y en a, je ne sais pas, il a écrit je ne sais pas combien de pièces. Il a écrit énormément de pièces.
Oui, oui, oui.
Bon, il y en a qui sont un peu disparus maintenant, mais c'est quand même des succès énormes.
Il a collectionné des succès un peu partout. Alors, le cinéma, il s'y est intéressé même du temps du muet, puisqu'il avait dirigé une revue qui s'appelait Les Cahiers du film, ce que l'on a un petit peu oublié. Mais en fait, il s'est intéressé au cinéma parlant de façon tout à fait étonnante. Il semblerait qu'il ait dîné un soir tout seul dans un restaurant de la rue Blanche. Arrive un de ses amis qui lui dit « Tiens, je viens de voir un truc en Angleterre absolument extraordinaire, il faut que tu vois ça. » Et Pagnol dit « Ah bah, je vais le voir. » Il part le lendemain, il revient. Et là, il est complètement transformé. Alors, en quoi Pagnol a-t-il compris que le cinéma parlant allait apporter une révolution? Comment vous percevez cela?
Il a compris que ça allait être une révolution parce que d'un seul coup, c'était total. C'était le théâtre qu'on pouvait montrer absolument partout et qui était reproductible. Parce que c'était ça la différence avec le théâtre. Le théâtre, c'est reproductible, mais il faut qu'il y ait des acteurs tous les soirs qui jouent. Alors que le cinéma, une fois que vous avez vos galettes de films, vous pouvez les montrer autant de fois par jour que vous voulez. C'était ça l'énorme différence. Et moi, je crois que c'est ça qu'il a compris.
C'est ça, oui. Alors, il ne s'est pas laissé impressionner, parce qu'il y a des dialogues avec Rému qui sont tout à fait étonnants. Rému lui disant « Mais ton cinéma, là, c'est une galéjade. Au cinéma, tout est mort. » Et il a continué. Et comme il venait d'une famille d'artisans, il avait cette passion du travail bien fait. Il a travaillé pendant 2 ans à la Paramount, avant d'obtenir qu'on fasse un Marius, qui a été un triomphe. Et puis, il allait s'y mettre lui-même. Mais en fait, dans la trilogie, il n'a réalisé lui-même qu'un seul des 3 films.
Oui.
C'est César, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, le premier, c'est Corda qui l'a fait, et le second, c'est Allégret.
C'est ça, oui, c'est ça. Alors, il allait devenir un producteur de films. Alors, la liste des films...
C'est devenu un industriel. Il a décidé d'en faire une industrie. Et de devenir le patron de l'industrie.
Alors comment vous analysez ça, vous? Parce que nous, on perçoit le Pagnol, les grands sentiments et tout ça. Et puis, il y avait en même temps le Pagnol, homme d'affaires, très avisé.
Oui, mais ça restait les grands sentiments. Parce que, en fait, ce qu'il avait...
C'était l'industriel des grands sentiments, c'est ça?
Oui, on peut dire ça. Mais c'était aussi l'industriel qui faisait travailler ses amis. Et ça, c'est très important. Parce que tous les gens qui faisaient ses films, c'était ses amis Et en fait, il l'a dit plusieurs fois, il fallait qu'il fasse des films parce qu'il fallait que les gens qui l'employaient et qui étaient son équipe, il avait fait comme une troupe de théâtre, en fait, avec ses studios. Et il disait, mais il faut que je fasse travailler ces gens-là, donc il faut que je fasse des films. Donc c'était une espèce de patron, c'était très social. C'était une organisation sociale qui était très importante parce qu'il avait tout fait, il avait fait la chaîne entière. Il avait fait, bon, il écrivait les scénarios, après il faisait le tournage, après il faisait le montage, après il développait lui-même les films, il avait créé un studio de développement. Tout était fait à Marseille. Le film était tourné à Marseille et il était terminé à Marseille.
Alors, il en a fait, hein, Merlu, Cigalon, Le Spoons, donc La Fille du Pesatier, La Belle Meunière, Manon des Sources, et puis les Giono, les très beaux Giono, Angèle, Regain, et oui. Peut-être surtout La Femme du Boulanger. Mais alors, comment vous répondez-vous à la critique voilée, un peu perfide, qu'on lui a adressée parfois en disant « Ah, votre cinéma, c'est du théâtre filmé ». On ne le disait pas de façon très élogieuse, ça.
Oui, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on a considéré que, pendant très très longtemps, on a considéré que Pagnol n'était pas un cinéaste.
C'est ça. Hein.
On considérait que c'était effectivement un peu du théâtre filmé, que c'était fait uniquement pour servir ses textes. Et puis on s'est aperçu, les grands cinéphiles, justement, les gens des cahiers du cinéma...
En 65,
oui. Oui, les cinéphiles américains sont aperçus que c'était du grand cinéma, parce que c'était du cinéma qui était fait avec une extrême rigueur et sans aucune sophistication. Et d'un seul coup, Pagnol est devenu un grand cinéaste. Il y a eu une espèce de revirement de réputation et de cinéaste qui n'était même pas un cinéaste. D'ailleurs, on avait une espèce de mépris pour ses films.
D'autant qu'il avait beaucoup de succès. Et ça, c'est
en France,
c'est rarement pardonné.
C'est pas très bien vu. Et donc, il est devenu un grand cinéaste. Et d'ailleurs, c'est drôle de constater que au moment où on s'est aperçu que c'était un grand cinéaste, il avait déjà fini de faire du cinéma.
Oui, c'est ça. Ça, c'est des années, puisque un numéro de décembre 65, je crois, les cahiers du cinéma.
Oui. Hein.
Mais avant, donc, les Américains, il y a eu Orson Welles aussi. La Femme du Boulanger était un de ces deux ou trois films.
C'est un Américain.
C'est ça, oui. Mais ce n'était pas simplement un cinéphile.
Oui, oui. Non,
mais avant, il y a eu les Italiens.
Oui, les Italiens aussi.
Le néo-réalisme
est très...
Vittorio De Sica, Rossellini...
Mais d'ailleurs, on ne sait pas trop qui influence qui. Il y a toute une période où c'est très lié, moi, je trouve.
Mais est-ce qu'il n'est pas le premier à avoir fait sortir la caméra du studio ?
Non, ce n'est pas le premier.
Parce que les Italiens saluaient chez lui cette caractéristique, quand même.
Non, mais lui, il le faisait. Il faisait tourner son studio et puis il sortait. Bon, ça se faisait quand même pas mal. Hein. Non, ça se faisait avant. Ce n'est pas le premier. Non, c'est le premier, si vous voulez, comme il était son propre producteur, c'est le premier. Il avait une liberté totale, puisque c'était lui qui produisait. Donc, il sortait quand il avait envie de sortir. Il faisait ses plans de travail comme il avait envie de faire. Il s'arrêtait de tourner 3 jours s'il n'avait pas envie de tourner. Ça a été un cinéma d'une grande liberté. Et ça, je trouve que ça se sent dans les films. Cette espèce de liberté qu'il y avait de Pagnol vis-à-vis de son industrie, puisque c'était lui qui la gérait totalement, il lui insufflait une espèce de liberté à son industrie et donc à ses films.
D'où l'impression d'artisanat, peut-être un peu.
Hein, oui.
Mais d'artiste et d'artisanat.
C'était l'artisanat, d'ailleurs. C'était du grand artisanat.
Alors, autre critique un peu malveillante concernant le cinéma de Pagnol, c'est de dire, ah, quand même, il a été servi par des très grands acteurs, non seulement Rému, mais Charpin, Delmont, un peu oublié aujourd'hui, Fernandel aussi. Et lorsque ces acteurs ont vieilli ou ont disparu, Pagnol, on n'a plus vu grand-chose. Est-ce que c'est tout à fait faux, ça ?
Si vous regardez Pagnol, l'œuvre de Pagnol, en fait, il s'arrête de faire du cinéma quand il commence à écrire de la prose.
Ses grands livres de souvenirs ?
Quand il écrit Jean de Florette, quand il écrit Manon des Sources, quand il écrit tous ces livres-là, c'est à ce moment-là qu'il arrête de faire du cinéma. Alors, est-ce que ça coïncidait avec l'âge de ses acteurs ? Peut-être, et puis son âge à lui aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve ça assez symptomatique du fait qu'il ait abandonné le cinéma pour la prose, alors qu'avant... C'était une écriture théâtrale. Même les films, ça restait une écriture théâtrale.
Alors, dans La Fille du Puisatier, Daniel Auteuil nous souligne que très modérément les accents provençaux. Pour beaucoup de gens, Pagnol, c'est d'abord les Santons de Provence, évidemment l'accent. Et on a vu en 2008 à la Comédie Française, d'ailleurs pour la première fois en 2008, on a joué Pagnol à la Comédie Française, une version de Fanny sans accent. Et là, on a eu l'impression, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais on a eu l'impression que chez Pagnol, au-delà des Santons de Provence, il y avait d'abord et avant tout une description presque féroce des rapports sociaux. Et que ce n'était pas du tout de la rigolade, Pagnol. C'était du tragique, c'était shakespearien, c'était racinien. C'est vrai ou c'est faux ?
Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du Racine. Hein.
C'est du Racine, oui.
Les pièces de Pagnol, ce sont des tragédies de Racine, c'est clair.
Camouflé par l'accent, quoi.
Camouflé. Bon, c'est mon avis, mais ce qui s'est passé, c'est que comme il a commencé...
C'est ce qui nous intéresse, hein, c'est votre avis.
Comme il a commencé à faire des pièces qui se passaient en Provence avec l'accent, très très vite, ça l'a catalogué. c'était l'accent qu'il cataloguait. Mais... Et en même temps, est-ce que ça ne lui a pas donné une liberté formidable, justement, pour pouvoir dire, pouvoir tout ce qu'il avait envie de dire, qu'il n'aurait peut-être pas pu dire s'il n'y avait pas eu cet accent chantant.
Oui, parce que quand on regarde même les premiers succès, les marchands au théâtre, c'est terrible contre les politiciens. Quand vous regardez Topaz, ça fait rire, mais Topaz, c'est la description du règne de l'argent, et c'est quand même assez étonnant. Et évidemment, la trilogie, on voit tout ce qu'il y a dans la trilogie sur la force des conventions et le côté criminel, quasiment, des conventions. La pauvre Fanny, sa jeunesse est volée. Et dans La fille du puisatier, la jeunesse de Patricia a failli être volée, en fait. Il y a un retournement. Bon. Et il y a donc ce premier aspect des choses. Mais le second, est-ce que vous êtes sensible, vous, je dirais, au côté bossuet de Pagnol, c'est-à-dire l'éminente dignité des pauvres ? Que ce n'est pas majeur, ça, chez Pagnol, aujourd'hui ? Parce que quand on voit La fille du puisatier, on est surpris. Personne n'avait présenté les pauvres comme ça depuis très longtemps, quoi.
Oui, mais moi, ça ne me fait pas penser à Bossuet, mais...
Non, mais c'est la formule, hein.
Je sais que c'est la formule. Mais justement, je pense que chez Pagnol, c'est pas formulé comme ça. Chez Pagnol, c'est pas une formulation intellectuelle. C'est beaucoup plus profond que ça, et ça rejoint ses racines à lui. Oui. Moi, je pense que ça vient de ses racines, parce que ce que vous disiez tout à l'heure quand vous faisiez la biographie de Pagnol, son grand-père voulait qu'il soit instituteur parce qu'à l'époque, être instituteur, c'était une ascension sociale formidable.
Reconnaissance.
C'était une vraie ascension sociale. Et donc, il vient de là. Et ça, moi, je crois que c'est très profond chez lui.
D'ailleurs, il y a dans La fille du puisatier une scène qui vaut le déplacement à elle toute seule. C'est lorsque Pascal Amoretti, donc le puisatier, amène ses enfants en dimanche pour aller mettre les petits bourgeois, donc les mazels, les parents donc de ce garçon qui a fait un enfant à La fille du puisatier, pour les mettre face à leurs responsabilités. La scène là sur la dignité du pauvre est extraordinaire.
Quoi, parce que quand il dit j'avais confiance dans les gens, il faut jamais avoir confiance dans les gens qui vendent des outils mais qui s'en servent pas. C'est quand même une réplique extraordinaire.
Hein. Mais c'est Pagnol, c'est sa fascination du travail bien fait,
oui,
de l'outil.
Oui, oui, c'est une des plus belles répliques qui soit quand même.
Voir comment il est outragé de voir la mesquinerie des réactions petites bourgeoises. Quoi. C'est...
Ah oui, oui. Mais justement, c'est ça que je trouve formidable chez Pagnol, c'est que, vu ses origines, ça aurait pu devenir un petit bourgeois. Et ça n'est pas devenu un petit bourgeois. Et ça n'est pas devenu ni un petit bourgeois, ni un grand bourgeois, un but sa bourgeoisie. C'était un bourgeois, parce que bon, c'était quelqu'un qui vivait comme un bourgeois. Mais ses racines, elles étaient toujours là. Il n'a jamais perdu le sens de ses racines.
Elle le portait, quoi.
Elle le portait, elles l'ont porté toute sa vie. D'ailleurs, il n'a parlé que de ça. Hein.
Ouais. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a à la fois la dignité des pauvres et des gens simples, mais en même temps, il y a le respect complet de la complexité de la nature humaine, parce que les pauvres, chez lui, ne sont pas des petits saints. Vous prenez Manon des Sources et Jean de Florette, le papé, ce n'est pas un petit saint.
Ah, non, non.
Et là, Pascal Amoretti, ce n'est pas un petit saint non plus, parce qu'il chasse sa fille, et quand il s'aperçoit qu'elle a un garçon, lui qui a toujours rêvé d'avoir un garçon, il la rapatrie.
Puis,
donc il y a un égoïsme forcené là-dedans, il y a une hypocrisie, il y a tout. Il y a les mêmes caractéristiques que chez les bourgeois.
Et puis il faut voir comment il est odieux avec les bourgeois quand même. Quand les mazels vont le voir au deuxième puits, là,
puits. Oui. Après la mort de leur fils.
La mort de leur fils, et qu'ils lui disent « alors qu'est-ce qu'on est pour vous ?» et qu'il répond « des passants ». C'est terrible, je veux dire, c'est cinglant, c'est presque méprisant.
Oui, c'est le pauvre qui se suffit à lui-même, en fait.
Oui, et, oui, oui, on peut dire ça, on peut dire ça.
Donc ça pourrait amener un certain nombre de gens à relever la tête de voir un spectacle comme celui-là. Alors, c'est un monde de situations complexes, mais c'est jamais un monde de tiède chez Pagnol. Il n'y a pas de tiède.
Non.
Non, même pas Panis, ces gens comme ça, ce ne sont pas des tièdes. Ce sont des mous, mais pas des tièdes.
Dans la trilogie, je ne sais pas, peut-être...
Un peu plus.
Peut-être un peu plus. Oui. Dans La fille du puisatier, ce ne sont pas des tièdes, ce sont des faibles. Parce que M. Mazel, c'est un faible.
Ah, c'est un faible, il est mené par le bout du nez.
Il est mené par sa femme. Donc, ce n'est pas un tiède, mais c'est vraiment un faible.
Alors, on se dit, quand on voit La fille du puisatier, qu'au fond, le principal ennemi de ces gens-là, c'était eux-mêmes, quoi. C'était leur code de valeur. Le fait qu'être fille-mère équivale à être une femme perdue, il y a quand même là-dedans toute une série de valeurs qui vous tuent, quoi. C'est l'époque.
À l'époque, c'était la convention sociale, c'était ça quand même. C'était une fille perdue, de quelque milieu qu'elle soit. Ça portait bien son nom, elle était perdue.
Donc il y a les apparences, il y a une hypocrisie, il y a une extrême dureté.
Ah oui.
Mais au fond, ce que je vais vous dire, va peut-être vous surprendre, mais au fond, Pagnol, Feydeau, sur ce plan-là...
C'est très proche.
C'est proche, hein.
Ah bah oui.
Parce que Feydeau, c'est terrible aussi.
Ah bah Feydeau, c'est d'une cruauté...
Oui.
Oui, oui.
C'est quand même étonnant. Hein.
C'est une cruauté sociale incroyable. Et Pagnol, c'est la même chose.
Alors, il y a cet aspect donc, social donc, qui porte l'œuvre de Pagnol, et puis il y a quand même l'autre aspect qu'on néglige très très souvent, qui est l'écrivain et les qualités de l'écrivain. Est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout, quand on voit un film comme celui-là, où tout a été fait pour être épuré, ramené à l'essentiel, d'abord, ce qui frappe, d'abord, c'est la qualité de la langue, quoi.
Ben, c'était le point de départ du film. C'était surtout de ne pas changer le texte de Pagnol, de ne pas le moderniser et de le garder intact. Il y avait une espèce de respect du texte par Daniel qui était absolu. Et il le disait aux autres acteurs, d'ailleurs. Il disait, tu dis ça, s'il y a une virgule, ben c'est, il faut jouer la virgule. C'est pas autre chose, c'est pas un point-virgule.
Et on a l'impression de la même simplicité que dans les textes de Racine.
Ah mais oui.
C'est ça, hein.
Oui, oui. Puis c'est chantant. C'est pas en alexandrin, mais c'est comme si c'était en alexandrin. C'est une langue musicale d'un bout à l'autre.
Alors, il y a des textes de Pagnol qui sont, sur ce plan de la qualité de la langue, tout à fait étonnants. Par exemple, son hommage à Rému au moment de la mort de Rému, quand il parle du cinéma qui rend à notre tendresse le sourire des amis perdus. Enfin, il y a un texte d'une extrême délicatesse, quoi. On oublie trop souvent que cet homme-là avait une culture phénoménale, qu'il avait traduit Virgile, qu'il avait traduit Shakespeare, qu'il avait...
Mais c'était ça, c'était cette espèce de culture qu'il avait, elle était due juste, c'était sa culture de base, c'était ça. Il était prof d'anglais, il parlait les langues classiques, enfin il savait les traduire et tout. Et on ne sent jamais ça dans son œuvre, alors que c'est toujours là. Cette culture universelle, elle est sous-jacente.
Ouais. Alors je me demande si la personne qui n'a pas le mieux défini l'essentiel du talent de Pagnol, je me demande si ce n'est pas votre éditeur. Parce qu'un jour, Bernard de Fallois parlait de Pagnol en disant « il a le génie de l'émotion ». Est-ce que ce n'est pas ça, fondamentalement, le génie de Pagnol, le génie de l'émotion?
Oui, il a gêné l'émotion et en fait, c'est parce qu'il sait, je vais employer un mot qui est terrible, il sait fabriquer l'émotion à la fois par le langage et par la situation. Et c'est la combinaison des deux qui fait qu'il arrive à des sommets d'émotion. C'est pas seulement le langage, c'est la situation. Et c'est la combinaison des deux, de cette espèce de langage qu'il a et des situations qui sont certes toujours les mêmes, mais qui sont des situations excessivement fortes et qui met en scène dans ses textes, qui font que l'émotion est très très forte. Et l'émotion, qu'elle soit montée par je ne sais qui ou je ne sais qui, elle est toujours là, au même moment et aussi forte.
Alors pour en revenir à l'expression, et une expression qui parfois donne l'impression d'être une expression de rire, mais qui derrière traduit, au fond, une perception tragique des choses. Par exemple, quand il parle du rire, il dit « Dieu l'a donné aux hommes pour les consoler de leur intelligence ». Pas très gai, ça.
Mais pourquoi les hommes ont besoin d'être consolés de leur intelligence?
Parce que ça leur fait voir...
De leur inintelligence ou de leur intelligence?
Non. Je perçois cette phrase de Pagnol comme étant, disons, une analyse très sombre de la réalité, quoi.
Oui.
Ils sont intelligents, ils voient quelque chose de sombre, donc Dieu leur donne le rire pour compenser.
On est proche du désespoir, là, je trouve.
Ouais, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Ceci étant, il disait également cette chose merveilleuse, méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Alors, il y a des textes de Pagnol. Donc, pour nous, on a l'impression que Pagnol, ça a 50 ans, 60 ans et tout ça. Et pourtant, quand on discute avec des gens de théâtre d'aujourd'hui, je pense, enfin, il est mort désormais, mais Ionesco, ou des gens comme Mesguich, comme Jérôme Deschamps, quelqu'un comme Bouquet, on peut se demander si Pagnol n'a pas été l'un des précurseurs de la perception qu'on a aujourd'hui du théâtre. Je pense à cette phrase assez extraordinaire de Pagnol. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais ce qui est dessous. Ce qui compte, ce sont les sous-entendus. Il y a une grande partie du théâtre contemporain qui fonctionne là-dessus.
Qui est fait sur le non-dit.
C'est ça. Hein,
c'est ce qu'on appelle Ionesco. Le non-dit maintenant.
Oui, c'est ça. Ionesco, c'est ça.
C'est le non-dit qui a dérivé sur l'absurde en plus, après.
Donc c'est étonnant quand même de se dire que Pagnol avait perçu ça bien avant.
Il a été très prémonitoire dans plein de choses, hein.
Alors, il a été prémonitoire, mais il a mis du temps à être reconnu par la Comédie Française, on le disait, puisqu'il n'a été joué à la Comédie Française que bien longtemps, plus de 30 ans après sa mort, donc en 2008, avec ce Fanny sans accent. Par contre, l'Académie Française l'avait reconnu, donc je disais tout à l'heure qu'il avait été élu en 1946. Alors, Mauriac avait écrit quelque chose, enfin, c'est mi-figue, mi-raisin, hein, ce qu'avait écrit Mauriac à ce moment-là. Il a écrit ceci, « Pagnol est le seul à ne pas avoir de socle. Il semble s'être glissé dans cette antichambre de l'éternité, en passant par la fenêtre, le seul qui sente l'air du dehors. » Vous prenez ça comme un hommage, vous, ou comme...
Mais avec Mauriac, on ne sait jamais.
C'est vrai, le chartron, c'est le...
On ne sait jamais si c'est un hommage ou s'il enfonce quelqu'un, en fait, Mauriac. Ouais. C'est terrible.
Hein. Il a ses problèmes à résoudre, quoi.
Oui.
Son drame intéressant.
On va les lui laisser encore.
Ouais. Alors, donc, depuis une vingtaine d'années, Pagnol vient à l'affiche, perd l'affiche... Mais ces dernières années, le théâtre l'avait quand même mis en évidence de façon exceptionnelle. Donc je parlais de la Comédie française. Mmh. Mais il y a aussi cette réussite exceptionnelle de Francis Huster, qui le premier a réuni les trois morceaux de la trilogie pour en faire une seule pièce. Et donc, on attendait le retour du cinéma. Le retour du cinéma, c'est avec ce film très très réussi. Mais je voudrais vous demander un avis là-dessus. Vous demander si vous partagez le mien, en tous les cas. Cette réussite de La fille du Puisatier. Donc, on voit bien que c'est un monde très très dur. Mais est-ce que le succès ne vient pas d'abord et avant tout parce qu'on se dit, au fond, à cette époque-là, ils avaient une vie très dure. C'était terrible. Mais au fond, ils étaient maîtres de leur destin. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus maître de nos destins. Est-ce que vous ressentez cela ou c'est une perception ?
Moi, je le ressens parce que c'était... Quand on voit la manière... Enfin, quand on voit La fille du Puisatier, ça fonctionnait... Cette vie, à l'époque, fonctionnait sur une espèce de... Ils fonctionnaient en autarcie, tous ces gens-là. Alors, il y avait la région, puis après, il y avait le village. Donc, ça, c'est très présent dans le film, d'ailleurs, je trouve. C'est entre le bazar des Mazels, entre la maison du Puisatier, les chantiers... Pourtant, Dieu sait si on ne voit pas beaucoup la vie dans le film. On est excessivement concentré sur le film de Pagnol. Mais on sent ça quand même, que le cadre de la vie n'a plus rien à voir avec celui qu'il était à cette époque-là.
Donc on le maîtrisait à cette époque-là.
On le
maîtrisait.
C'était
très dur, il y avait la guerre, il y avait tout ça, mais c'était à l'échelle humaine.
Ouais, la guerre, alors là je crois que c'est un autre problème. Là je crois qu'il ne faut pas en parler, la guerre. D'ailleurs,
elle est très peu présente, mais enfin quand même. Elle est comme le Mistral, elle ajoute un
élément dramatique. Oui, dans le film, elle n'y est quasiment pas.
Quand même.
Tout ce qui est discours de Pétain, ça a été supprimé.
Dieu merci, mais la force du train et tout ça, enfin ça...
La force du train, c'est...
Il y a des choses. Mais il y a cette impression qu'il y a quand même une dimension humaine, quelle que soit la difficulté des vies.
Ah bah oui, bien sûr.
À la différence d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on a une espèce de choix de sa vie qu'on n'a plus maintenant. Je veux dire, maintenant, il y a une espèce de chose qui vous tombe dessus. Alors qu'à cette époque-là, c'était... On était pauvres, mais on vivait sa pauvreté du mieux qu'on pouvait, quoi. On n'était pas pris en charge par une espèce de système qui broyait tout, voilà. Il n'y avait pas système qui broyait tout. Et Pagnol, il fait bien comprendre ça, je trouve. D'ailleurs, la chose dans la vie de Pagnol, moi, que je trouve la plus extraordinaire, qui n'a rien à voir avec les pièces, qui a à voir avec le quotidien, c'est quand il y a eu la guerre et qu'au début de l'occupation, il a vendu sa production, il a vendu son laboratoire, il a tout vendu à Gaumont, parce qu'il ne voulait absolument rien avoir avec les Allemands. Et il est parti à Vence, je crois, ou à Saint-Paul, je ne sais plus. Et il a monté une culture d'œillets. Il a monté une culture d'œillets pour employer les gens qui faisaient travailler dans ses films. Parce que quand on était employé, on partait pas au STO. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et vous avez des lettres à Rému, par exemple, qui sont de Vence, et il y a marqué Marcel Pagnol, je sais plus comment ça s'appelait, culture d'œillet.
Ce qui est drôle,
c'est que qu'est-ce que veut faire Hugolin dans Manon des Sources ?
Manon des Sources, c'est ça.
Il veut faire des œillets.
Il y a cette tendresse pour les autres quand même chez Pagnol. Hein,
parce que
vous évoquez Rému, j'ai plus exactement la phrase en tête, mais quand il disait. Tu es peut-être le plus emmerdeur de tous les êtres humains, mais tu es aussi le plus grand comédien.
Ah bah oui.
C'était quand même quelque chose de...
Mais ils avaient une complicité, une admiration, et puis une espèce de détestation par moments, c'était extraordinaire. L'anecdote de Rému et de Pagnol, Rému qui voulait pas faire César, elle est magnifique. Et il lui avait mis un scénario sur le bureau, il l'avait laissé tout seul dans le bureau, il lui avait mis le scénario sur le bureau, et dans le scénario qui était sur le bureau, il le faisait mourir à la deuxième page. Et... Donc il n'était pas censé l'avoir lu, et parce qu'il voulait un prix terrible. Il a vu ça, et il s'est dit, mais je meurs à la deuxième page, c'est pas possible. Donc après, Pagnol a eu absolument tout ce qu'il voulait.
Oui, mais déjà, il avait eu des problèmes pour Marius, parce que Rému voulait jouer Marius, et Pagnol voulait que ce soit Freinet pour être joué à la Comédie française,
ce
qu'il n'a pas obtenu d'ailleurs. Comment vous placez Pagnol par rapport à l'univers de Giono, enfin, parce que Pagnol avait une adoration, enfin une vénération à l'égard de Giono. Il a donc mis au cinéma Angèle, Regain, La femme du boulanger. Mais comment vous les situez l'un par rapport à l'autre ?
Et c'est drôle parce qu'au niveau de... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de Giono, mais je n'ai pas l'impression que ça donne comme ça en ayant lu quand même quelques Giono. Giono, c'est la terre qui est un peu creusée, si vous voulez. Alors que Pagnol, c'est le terroir. Il y en a un qui est plus profond que l'autre. Pagnol... Ce sont des apparences, hein. Ce sont des apparences. C'est pas profond, mais en définitive, moi, je pense qu'ils disent à peu près la même chose. Mais c'est les styles qui sont très différents. C'est que Giono, il a une espèce de langage. D'abord, c'est beaucoup plus de la prose, hein. Mais c'est une espèce de prose, c'est la glaise, quoi. Alors que Pagnol, c'est le brillant du langage.
Il y a peut-être plus d'amour des autres chez Pagnol, non ?
Oui, aussi. Hein, c'est vrai. Oui, 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 vous avez raison. C'est beaucoup plus généreux chez Pagnol que chez Giono. Chez Giono, c'est sauvage.
Alors, si on veut comprendre ce qui se passe sur le tournage d'un film et ce qu'est le métier de directeur de photo, qui est évidemment un métier très mystérieux, donc il faut lire votre journal de tournage à Philippe Usasier. Et vous dites une chose qui m'a étonné. Vous dites que lorsque vous avez vu le film pour la première fois, au bout de 3 minutes, vous vous êtes dit, ça va marcher. 3 minutes.
Ben oui, vous savez, il y a une espèce
de... Au bout de 3 minutes, on sait ça?
Oui, on sait parce qu'il y a... Il y a un ton, il y a une alchimie qui se fait entre tous les éléments, entre la lumière, entre le cadre, entre le jeu des acteurs, entre le texte. Cette alchimie-là, et puis aussi dans le découpage, parce que faire un film, c'est découper un scénario en tranches, si vous voulez, en plans, ce qu'on appelle des plans. Eh bien, si cette alchimie-là, c'est-à-dire que ce découpage, cette succession de plans, elle fonctionne avec tout ce que je vous ai dit, les acteurs, la lumière, le cadre, le jeu des acteurs, bah oui, ça marche. Ça marche. Et s'il y a eu un déclic qui a fait que ça a commencé à marcher, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Alors vous dites aussi qu'au bout de 10 minutes, je pleure. Vous avez pendant 8 semaines vécu le tournage du film, donc vous devriez en avoir un petit peu marre quand même.
Et oui, est-ce qu'il y
avait... Là, vous voyez le film, 3 minutes, vous dites ça va être formidable, et 10 minutes, vous pleurez.
Oui, parce que...
Qu'est-ce qui vous a fait pleurer?
Parce que, si vous voulez, vous pleurez jamais sur un tournage. Vous pleurez jamais sur un tournage parce que vous êtes... invulnérable. Vous êtes invulnérable parce que vous regardez à travers une caméra, parce que vous voyez tout dans un cadre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité autour.
Le cadre vous préserve.
Le cadre vous préserve. Alors que d'un seul coup, quand vous voyez le film, vous le découvrez. Vous découvrez ce que vous avez filmé. Vous l'avez déjà vu, ce que vous avez filmé. Mais d'un seul coup, vous découvrez ce que ça veut dire. Quand vous le filmez, vous enregistrez tout. Vous enregistrez à la fois l'image et le sens, si vous voulez. Et quand vous voyez le film, à ce moment-là, vous êtes un spectateur et vous recevez tout en même temps. Vous êtes complètement vierge. C'est comme si vous n'aviez rien vu, ni... Vous découvrez tout. Et c'est drôle, cette sensation de se sentir invulnérable quand on filme. Et vous savez, il y avait un type qui a filmé sa mort comme ça. Il y a quelqu'un qui lui a tiré dessus, il était en train de tourner.
Il n'a rien senti.
Il a vu qu'on lui tirait dessus, il n'a pas bougé.
Mais c'est pareil pour les monteurs, encore pire pour les monteurs.
Non. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout la même chose.
Pour l'expérience que j'ai eue du travail avec les monteurs, c'est que ça devient une drogue, quoi. Ils peuvent monter pendant 5 ou 6 heures d'affilée, tellement ils ont l'impression de maîtriser le monde à travers le cut à 10 secondes, à 20 secondes,
mais...
à 15 secondes, non ?
Oui, mais il n'y a pas... Si vous voulez, entre une salle de montage et un tournage, et un plateau de tournage, ça n'a rien à voir.
Mais cette impression de toute puissance ?
Oui, mais la toute puissance du monteur... Bon, il réécrit le film, si vous voulez. Mais c'est petit, ça implique des choses petites. Vous avez un petit écran d'ordinateur, vous avez... Maintenant, puisque maintenant on fait comme ça, alors que sur un plateau, vous avez 50 personnes, vous avez des comédiens qui jouent, qu'on respecte. Il y a une magie qui se fait à ce moment-là, qui n'existe qu'à ce moment-là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tellement de gens qui sont passionnés par le tournage. C'est une espèce de drogue.
Une drogue, oui.
Et on ne peut plus s'en passer.
Alors, justement, Daniel Auteuil a l'intention de réaliser la trilogie. Donc, Marius, Fanny, César, vous serez de la partie ?
Bah, en principe, oui, puisque j'ai même reçu un texte il n'y a pas très longtemps. Alors.
Donc, ça démarre quand, ça va...
Oh, je pense que ça démarrera au printemps prochain.
Alors, vous êtes l'un des grands directeurs photos du cinéma français, on peut le dire devant vous. Hein. Mais vous êtes aussi un écrivain, donc vous avez obtenu en 2008 le prix du roman de l'Académie française pour La Disgrâce de Jean-Sébastien Bach. Alors, est-ce qu'être directeur de photos, c'est une manière d'écrire sans les mots ?
Oui, c'est une manière d'écrire avec la lumière, c'est sûr. Mais, si vous voulez, la différence entre l'écriture et la direction de photos, si vous voulez, c'est que l'écriture, c'est solitaire, et la direction de photos, c'est un travail d'équipe absolument... formidable, parce que vous êtes à la tête d'une équipe et il faut mener tout ça et puis il faut arriver au résultat que vous avez dans la tête avec toute une équipe. Et... Donc, ce n'est pas du tout la même méthode, quoi. Ce n'est pas du tout les mêmes sensations.
Vous êtes plus fragile quand vous écrivez, quoi.
Ah ben ça, c'est sûr. Oui, oui. On est peut-être moins angoissé, mais on est plus fragile.
Et vous avez besoin des deux, vous ?
Ah ben moi, j'ai besoin des deux. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais.
Espérons-le. Est-ce que vous considérez que Pagnol a sa place au panthéon des grands auteurs populaires, au sens noble du terme, hein, je dirais avec Hugo et Dumas ? Est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie de la trilogie ? Ou est-ce que c'est le placer un peu trop haut, à votre avis ?
Pourquoi il n'y aurait pas droit, moi ? Oui, non, absolument, absolument.
Est-ce qu'on
absolument.
A oublié quelqu'un là, dans les grands auteurs populaires ? Encore une fois, au sens noble du terme,
oui,
hein,
non,
sans
bien
condescendance
bien
aucune.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que ce ne sont pas les trois?
On parlait de Fedot tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir quand même.
Non, c'est
pas du tout la même chose.
Plus marqué au point de vue de classe
sociale. C'est une œuvre plus légère, disons. Moins universel, parce que Pagnol, c'est universel, donc il n'y a pas de raison de ne pas le placer avec
Hugo. Vous êtes d'accord pour la trilogie?
Oh, oui, ouais, complètement.
Merci. Ainsi s'achève cette émission, essentiellement consacrée donc aux relations entre Marcel Pagnol et le cinéma, ceci à l'occasion de la nouvelle version de son œuvre, donc La fille du puisatier, réalisée et interprétée par Daniel Auteuil, notre invité étant l'un des grands noms de la direction Fantô en France qui a officié sur ce film, Jean-François Robert, qui, je le rappelle par ailleurs, a obtenu en 2008 le Grand Prix du roman de l'Académie française pour La disgrâce de Jean-Sébastien Bach, qui a été publié aux éditions Climat, probablement chez un autre éditeur bientôt. Et Jean-François Robert, qui vient donc de publier également le journal du tournage de La fille du puisatier aux éditions de Fallois, Bernard de Fallois étant historiquement le grand éditeur de Marcel Pagnol. Bernard de Fallois qui a édité également à l'occasion de la sortie du film le texte même de La fille du puisatier que je vous engage sans grand risque à aller voir. C'est 1h47 d'humanisme cinématographique. Et à la fin, on se dit, je ne sais pas quelle impression, enfin, vous étiez dedans, donc c'est différent, mais moi je me suis dit, déjà, tiens, dommage. Et on sort de la salle avec cette impression très curieuse d'être meilleur que lorsqu'on y était rentré. Vous n'avez pas eu cette impression-là? En tant qu'homme, en tant qu'homme et femme, on se sent un peu meilleur, vous ne trouvez pas?
Moi, le film, je l'ai vu 18 fois, je crois. Et bien, cette sensation, je l'ai toujours au bout de 18 fois.
C'est ça. Et quel est le moment qui vous a le plus touché? Parce qu'il y a dans ce film quelque chose d'extraordinaire qui n'était pas dans le film de Pagnol. Et pourtant, c'est un grand moment, c'est l'aveu.
Oui.
C'est pas dans le film de Pagnol.
Non. Il l'a enlevé dans le montage. Il est dans le scénario de Pagnol. Mais il l'a coupé au montage. Il a fait une ellipse et on n'a plus cette scène-là, alors que c'est une des plus belles scènes du film.
Et quand vous l'avez tournée, vous avez eu une appréhension particulière en disant « Tiens, Pagnol s'est cassé le nez, nous
?» Oui, on en avait beaucoup parlé avant. Et on a beaucoup tourné autour du pot, si je puis dire, avant de tourner cette scène, parce qu'on ne savait pas comment on allait la tourner, justement.
Alors, elle est tournée avec une, je dirais, c'est épuré comme un grand truc classique.
Oui, absolument. On a tout
épuré. Là encore, c'est du Racine, là.
On a tout épuré, là.
Alors, si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que probablement vous aimez Pagnol. Donc, je vous signale une autre émission que nous avons réalisée il y a quelques mois avec Philippe Cobert, celle-là, sur les rapports, cette fois, de Marcel Pagnol avec le théâtre. Jean-François Robin, merci et gardez cette passion merveilleuse qui vous anime. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci à vous.